Voilà, gloire à Dieu, béni soit le Seigneur. Alors, désolé, mais je suis venu seul parce que ma femme est de service, puisqu'elle travaille à l'hôpital de Martigues. Et donc aujourd'hui, eh bien, vous savez, pour ceux qui travaillent dans le corps médical, eh bien, les malades, ils ne sont jamais en vacances. Hein? Donc, heureusement que le personnel médical est là pour eh bien, pallier eh bien, à leurs besoins aussi. Alors, merci à votre pasteur, et à son épouse, eh bien, de l'invitation. Voilà, alors il y a bien des années, je venais sur Arles et je n'aurais jamais pensé que je viendrais prêcher l'évangile à Arles, puisque à cette époque, je venais emmener des touristes à Arles, sur Arles. J'étais chauffeur de car et alors j'emmenais les gens visiter les endroits historiques. Voilà, comme quoi, eh bien, Dieu nous réserve des drôles de surprises et des bonnes et de belles surprises. Voilà, gloire au Seigneur! Voilà, alors j'aimerais ouvrir la parole de Dieu avec vous dans l'évangile de Jean, au chapitre 11. Alors, pendant que vous cherchez Jean, c'est juste après la Genèse, eh bien, nous sommes sur Martigues depuis le mois d'août, et nous arrivons tout droit de la Drôme, de Romans-sur-Isère, où nous sommes restés 6 années, et nous avons pris, eh bien, nos habitudes sur Martigues, voilà, nous sommes très très malheureux puisque nous sommes trop près de la mer. Voilà, j'ouvre les volets et des volets, enfin pas des volets, j'ouvre les volets et de la maison je vois eh bien l'étang de Berre avec les voiliers, donc c'est une belle vue. Vous avez une très très belle région et vous avez remarqué que je n'ai pas l'accent du sud puisque je suis tout droit et bienvenu de ma Normandie natale, voilà. Allez, on fait la lecture. Jean 11, verset 1er. Voici ce qui est écrit. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de l'homme soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur, et Lazare. Lors donc qu'il y eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour ?» Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Amen. Il y a des choses que nous pouvons vivre dans notre existence qui nous semblent très très difficiles et ça dépend aussi bien surtout de notre sensibilité. Nous sommes tous des humains, mais nous avons tous une sensibilité qui nous est tout à fait particulière et personnelle et qui détermine aussi entre autres notre caractère, notre façon de réagir. Voilà. Et il y a au moins une chose qui nous semble difficile, je crois, pour tout le monde. C'est le sentiment d'être abandonné. Par exemple, vous pouvez avoir une épouse qui se sent abandonnée de son mari. Au bout de 15 ans de mariage, celui-ci tombe fou, éperdument fou, amoureux eh bien, de la secrétaire qui a 10 ans de moins. Voilà, et qui, elle, a besoin d'un père parce que dans sa petite enfance, eh bien, lui manquait quelqu'un, un père. Et celui-ci qui a 10 ans de plus représente quelque part eh bien, un homme sur qui elle pourra s'appuyer. Et lui, sa femme, ça fait 15 ans qu'ils sont mariés, sa femme a pris de l'âge, voilà, et le cœur n'y est plus pour sa femme. Vous pouvez imaginer un peu le sentiment de cette femme de se sentir abandonnée par son mari, voilà, pour des futilités. Et puis, vous avez aussi, eh bien, des jeunes enfants qui n'ont rien demandé à personne, qui sont nés sous X. Et qui, je regardais encore un reportage il y a quelque temps où, eh bien, le personnel médical cherchait, eh bien, le prénom, je crois que c'était une petite fille, pour lui donner un prénom pour éviter de l'appeler X. parce que la maman, eh bien, ne voulait pas de cet enfant. Quelle souffrance, quelle douleur pour de telles personnes. Et puis, parmi le peuple de Dieu, nous pouvons aussi nous-mêmes ressentir, eh bien, l'abandon de Dieu. Pas si ça vous est arrivé, peut-être ? Oui ? Non ? Certain. Alors, je crois que c'est un sentiment que nous pouvons tous avoir. Alors, quand tout va bien dans notre vie, ça ne pose aucun problème. Quand on est à la veille des vacances, quand le soleil brille, quand c'est super, on va faire un voyage, dans notre cœur, tout va bien. Mais il y a des périodes dans notre vie où c'est plutôt eh bien, le fond de la vague, voire même on touche eh bien, la vase. Et on se dit, où es-tu Seigneur ? Et vous avez remarqué que le Seigneur n'est pas toujours tenu de tout nous dire. Et surtout, Dieu ne répond pas forcément eh bien, à notre attente au moment où nous posons la question à Dieu. Or, la Bible nous déclare que Dieu ne peut en aucun cas nous abandonner. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 49, verset 14, est écrit « Sion ». Alors, au lieu de mettre « Sion », vous mettez votre prénom. Alors, je m'appelle Stéphane, alors je vais dire Stéphane. D'accord ? Stéphane disait « L'Éternel m'abandonne. Le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite ? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. » Amen. Pas si vous avez prêté attention, mais il est précisé ici, eh bien, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite ? Ma femme a eu l'occasion eh bien, d'allaiter nos enfants. Alors, je ne suis pas un expert en la matière, mais une maman qui allaite son enfant ne peut en aucun cas oublier son enfant. Ce n'est pas possible. Puisque je me suis laissé dire que, eh bien, lorsque eh bien, une maman allaite son enfant, elle a comme des tensions dans la poitrine. Et elle sait que, ça s'appelle une montée de lait, qu'à ce moment-là, eh bien, le bébé, et c'est. Le hasard est bien fait quand même. Hein. Enfin, le hasard n'existant pas, puisque le hasard, c'est l'autre nom que l'on donne à Dieu quand Dieu veut agir d'une manière incognito. Mais les lois de Dieu sont bien faites. Parce qu'au moment où la maman a la pression dans la poitrine, ce n'est pas à la seconde près, bien sûr, mais le bébé va se mettre à pleurer parce que celui-ci, eh bien, a faim. Voilà. Donc, en aucun cas, une maman pourrait oublier son enfant, surtout si elle l'allaite. Mais la Bible est claire. Combien même elle pourrait l'oublier, moi, je ne t'oublierai jamais. Revenons à notre texte de base. Ici, nous avons donc... deux sœurs, Marthe et Marie, qui sont en train de vivre quelque chose de tout à fait particulier. Au début, ça ne semblait pas, parce que, bon, tout le monde peut tomber malade, ça arrive à tout le monde. Et puis, faire la différence entre telle et telle maladie, ce n'est pas forcément eh bien, évident. Et ici, eh bien, peut-être que notre ami Lazare s'en était fiévreux, et puis, petit à petit, eh bien, la maladie s'est accentuée au point où Marthe et Marie se sont dit, eh bien, il y a un souci. Et comme nous connaissons, eh bien, Jésus, lorsque Jésus pose sa main sur quelqu'un, il se passe toujours quelque chose. Et Jésus va guérir, eh bien, notre frère. Et voilà que, confiantes, eh bien, ces femmes vont faire appeler Jésus. Et en effet, eh bien, l'émissaire qui est envoyé auprès de Jésus fait la commission eh bien, en parlant de Lazare en disant que celui-ci est malade. Et ces femmes étaient pleines d'assurance. Pour la raison suivante, c'est que ces femmes avaient déjeuné avec Jésus. Ils avaient eu un entretien avec lui. Et puis, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Donc ces femmes n'avaient aucun doute concernant les sentiments de Jésus à l'égard de cette famille. Ces femmes savaient que Jésus aimait cette famille. Et c'était rien, ça n'avait rien à voir avec le fait que l'on aime, eh bien, vous savez, le mot aimer dans notre vocabulaire français, on le met à n'importe quelle sauce. Hein, j'aime le fromage, j'aime ma voiture, j'aime les vacances, j'aime mon chien, j'aime ma femme. C'est le même mot, mais ça n'a vraiment rien à voir au niveau des sentiments. J'aime mes enfants et j'aime mon travail. Ce n'est pas du tout la même chose. Et ici, ces femmes savaient que lorsque Jésus disait « Je t'aime », eh bien, ça avait une valeur profonde. Et puis, Marthe avait particulièrement rencontré le Seigneur, puisqu'au chapitre 11 du verset 22 est écrit « Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Verset 27 « Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Donc dans cette famille, point de doute, ils savaient que Jésus était le Christ, était le Messie qui était attendu. Mais voilà, Jésus tarde. La matinée passe, Jésus n'est pas encore arrivé. Oh, ne t'inquiète pas, Marthe. Tu sais combien Jésus est demandé ici et là, et peut-être qu'il a un peu de retard, mais c'est sûr, il va venir. La journée passe. Et Lazare va de plus en plus mal. Imaginez un peu le stress dans cette famille, l'angoisse qui prend naissance et qui envahit le cœur. La nuit passe, Jésus n'est toujours pas venu. À coup sûr, ce matin, il vient, et Jésus n'est pas encore là. Et puis voilà que Lazare, eh bien, rend son dernier souffle. Je ne sais pas comment vous réalisez et combien vous réagissez lorsque vous vivez par un moment difficile, vous traversez un moment difficile. Et peut-être que vous êtes au début, tout va bien, parce que vous croyez que Jésus est bien et vivant et que Jésus va intervenir. Et puis vous récitez eh bien, des versets bibliques. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Et à coup sûr, et vous avez cette foi en vous. Et vous êtes lié par ces choses, parce que vous avez tellement d'expérience. Et puis, vous n'êtes pas quelqu'un, un novice. Vous avez cette expérience que Christ, eh bien, gît dans les cœurs. Alors vous attendez patiemment, mais notre patience va à un moment, et parfois notre patience défaille, faiblit. Il y a un tas de questions qui viennent dans notre tête. Est-ce que Jésus m'aime autant que je ne peux l'imaginer? Bien sûr, le Seigneur s'occupe du pasteur. C'est normal, c'est l'homme de Dieu. Il faut que le matin, il puisse prêcher la parole. Il doit prendre soin de l'Église. Mais moi, qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse avec moi? Je suis dans les rangs. Et puis, je ne me fais pas remarquer. Et puis, je suis un petit chrétien. Je viens avec ma petite Bible. Je fais ma petite prière. Je prends mon petit temps de culte. Je fais ma petite louange. Et dans ma vie, tout est devenu petit. Parce que dans ma tête, je suis devenu petit. Et c'est l'image que l'on peut avoir de soi-même. Alors, ce n'est pas comme ça que Dieu nous voit. Pour quelle raison? Eh bien, Jésus ne vient-il pas au moment où j'en ai le plus besoin? Et voilà que ces deux sœurs, eh bien, sans doute étaient en train de se poser cette question, mais que fait Jésus? Et par-dessus le marché, il y a quelqu'un qui vient susurrer à votre oreille, sans doute la voix que vous connaissez tous, que nous connaissons tous. Alors, il est où ton Dieu? Tu vois qui t'a laissé tomber? Pourtant, au début de ta conversion, il était écrit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, et ça marchait, hein? Et vous entendez cette voix qui vient vous dire, au fait, Dieu a-t-il réellement dit? Mais non, bien sûr, on ne met pas en question ce que Dieu dit. Mais toi, as-tu bien compris ce que Dieu te disait? Et dans notre tête, c'est Verdun. On ne reconnaît plus la géographie, on se dit, mais c'est où Verdun? C'est bombardé de partout, et dans mon cœur, ça peut être le vrai bombardement. La terre est retournée, dit Seigneur. Or, je ne sais pas si vous avez prêté attention, il est écrit, alors attendez, je suis en train de chercher mon verset. Verset 5, du chapitre 11, il est écrit, Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. C'est un tout petit verset. Et quand on lit, eh bien, ce passage que nous connaissons tous, Marthe, Marie et Lazare, nous connaissons tous ce verset, nous l'avons tous lu, mais je ne suis pas convaincu qu'on y ait vraiment prêté attention. Or, Jésus aimait Marthe, Marie et sa sœur. En d'autres termes, c'est comme si Dieu nous disait, ce n'est pas parce que je ne réponds pas à ta prière comme tu l'aurais souhaité, que je ne t'aime pas, que je ne t'aime plus, que je t'ai abandonné, parce que ce n'est pas dans ma nature. Je ne peux pas faire ces choses. Mais je t'aime, comme jamais tu n'as pu l'imaginer. Bien sûr, parfois on dit, je sais que Dieu m'aime, Dieu m'aime, Dieu m'aime, mais c'est souvent par notre intelligence, notre raisonnement qui dit, oui, je sais que Dieu m'aime. Et souvent, l'amour de Dieu, on le compare à l'amour des hommes. Et c'est bien souvent un problème. Quand on dit, Dieu est mon père, alors quand on entend dire quelqu'un qui dit, Dieu est mon père, alors on dit, oh, il a de la chance. Moi, si vous saviez le père que j'ai eu, parce que des fois, les gens font une comparaison du père avec notre père génétique. Or, Dieu aimait Marthe, Marie et sa sœur. Vous savez, mes amis, si Jésus était venu au moment souhaité eh bien, de Marthe et Marie, bien sûr, c'était légitime leur demande. Qui ne l'aurait pas fait? Moi, le premier, j'aurais dit, Jésus, il y a un souci là. Hein? S'il te plaît, ça urge. Dépêche-toi maintenant, tout de suite. Et moi aussi, j'aurais été comme Marthe et Marie. Je me serais posé certaines questions. Mais si Jésus était venu comme d'habitude, ce message que nous voyons ce matin, nous ne l'aurions pas eu dans la parole, pour la simple et bonne raison, c'est que Jésus serait venu, il aurait touché Lazare, Lazare était guéri, puis voilà. On n'a que quelques passages de guérison de certaines personnes. La Bible dit en quelques mots que si on avait écrit tous les miracles que Jésus avait faits, pas sûr qu'il y aurait assez de livres pour écrire ce que Jésus a pu faire à cette époque. Et bien sûr, ça serait passé d'une manière tout à fait... Ça serait passé dans les trappes en disant, oui, ben, il était guéri, bon, voilà. Or, Jésus a tardé. D'après la coutume juive, lorsqu'il y avait un mort, les Juifs attendaient au moins 3 jours. Parce qu'ils pensaient que l'âme du défunt restait autour du cadavre. Alors forcément, si Jésus était venu plus tôt, on serait dit, vous savez, les gens sont tellement tortueux et tordus, et ça nous arrive aussi à nous, alors peut-être pas vous, mais à moi ça m'arrive, d'avoir le cœur un peu... Donc il faut réviser les choses. On aurait dit, oh mais Lazare était dans un certain coma. Regardez, c'est pas Jésus qui l'a guéri. Ils l'ont réveillé, c'est tout. Mais il fallait que Lazare passe par cette mort. Pour quelle raison? J'y vois 3 raisons. Déjà au chapitre 4, verset 4 du chapitre 11. Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle, pour la gloire de Dieu. » Je ne sais pas par quelle situation vous passez, mes amis, quelle qu'elle soit. Peut-être que pour quelqu'un, c'est banal. Mais pour vous, ça n'a rien de banal. Pour vous, c'est tellement profond, c'est enraciné, comme je le disais tout à l'heure, c'est selon notre sensibilité. Mais vous dites, mais pourquoi je passe par tel moment? Et si vous pensiez autrement, en disant, Seigneur, je ne sais pas pourquoi je passe par là, mais je veux que ma vie continue à te glorifier. Parce que ce verset, nous le connaissons tous. Tout concourt. Tout. Tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Et si c'était pour la gloire de Dieu que vous passiez par un tel moment, posez-vous la question. Deuxième raison, verset 15. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui, etc., etc. À cause de vous, et Dieu parfois permet que nous passions par des moments très pénibles, pour notre propre cœur, pour notre formation, pour que nous ne soyons pas des chrétiens légers, mais que nous soyons des chrétiens spirituels. Ça peut paraître un peu bizarre de dire des chrétiens spirituels. Oui, des chrétiens spirituels. En d'autres termes, excusez, de vrais chrétiens. Des vrais chrétiens. Des chrétiens nés de nouveau. Des hommes et des femmes qui ne se laissent pas emporter par un tas de vents de doctrine ou par des choses qui peuvent... Un jour, je suis chrétien, un jour, je ne le suis plus. Un coup, je suis léger. Un coup, je suis enraciné quand tout va bien. Là, et quand il y a des moments difficiles. Non. Dieu veut nous façonner pour nous-mêmes, pour qu'on puisse prendre de l'envergure, être enraciné de plus en plus, être fondé en sa parole. Et troisième raison, versets 41-42. Ils ôtèrent donc la pierre du lieu où le mort était couché, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Amen. Mes frères et sœurs, les difficultés que nous pouvons vivre, bien sûr, c'est nous qui sommes concernés. Alors, mais sachons et apprenons que lorsque pendant des années, on a dit que nous étions chrétiens, ça a peut-être fait ni chaud ni froid à ceux qui nous entouraient. Lorsqu'ils apprennent qu'on vit des moments difficiles, ils ont un autre regard sur nous en disant, voyons voir. Lui qui parlait de sa marche avec Dieu, voyons voir si c'est un religieux ou quelqu'un qui porte juste une étiquette pour s'identifier à une religion, ou est-ce que c'est vraiment vrai ce qu'il disait, est-ce qu'il le vit? Et de voir que ce frère, cette sœur, malgré ce moment difficile, reste fondé, enraciné. Bien sûr, ça ne l'empêche pas de pleurer, d'avoir des moments de blues, des moments de dépression spirituelle, mais à chaque fois, il sait que c'est le Seigneur qui le relève, qui le régénère. Et c'est là que les autres nous observent. Le voisinage, les collègues de travail, la boulangère, le boucher, enfin tout ce que vous voulez, toute la smala. Ma propre famille, ma femme, mes enfants. Vous savez, parler de Dieu quand tout va bien, voilà. Mais quand tout va mal, et qu'on dit comme ça, mais je marche encore avec Jésus. Quoi qu'il arrive, je veux rester fidèle à mon engagement avec lui. Alors ça change tout. Et même parmi nos frères et nos sœurs, qui ne nous le disent pas forcément, mais c'est tellement important. Alors, Marthe porte un nom à deux significations. Marthe veut dire dame. Quelqu'un qui prend les choses en main. Et nous le savons, lorsque Jésus est venu avec les disciples, Marthe était celle qui a été trouver Jésus en disant, dis donc, enfin c'est ma version à moi, hein. Seigneur, ça t'inquiète pas un peu, parce que là, Marie, tranquille, hein. Oh, et moi, qui c'est qui a la cuisine? Bon, je t'invite toi, maintenant vous venez à 13, bon, ok, enfin vous êtes 13 maintenant, plus peut-être certains qui vous suivez Jésus. Bon, ça fait le couscous, il va falloir en faire, et le préparer, c'est bien gentil, mais je suis toute seule, les légumes et tout ça qu'il faut préparer. Marthe, écoute-moi, assieds-toi. T'agite pour beaucoup de choses. Marie, elle a choisi la bonne part. C'était une femme qui prenait les choses en main. Une femme qui était plein de D'enthousiasme, certainement, plein de zèle. Mais la deuxième signification du nom de Marthe signifie « qui devient amer ». Qui devient amer ? Alors, est-ce que parmi nous, il y a des dames ? Allez, on va même mettre au masculin. Des hommes et des femmes qui prennent les choses en main. Et on parle au passé. Parce que depuis, vous êtes comme Marthe, vous êtes devenu amer. Alors qu'avant, vous faisiez les choses. Le pasteur vous disait, j'aurais besoin de... Je suis là, frère. Et ce n'était pas pour vous faire remarquer. C'était l'enthousiasme dans votre cœur, votre zèle, votre désir de servir le Seigneur. Et puis, c'est passé quelque chose. Et vous êtes devenu amer. Alors souvent, quand on dit « amer », le frère, il est amer, c'est souvent du négatif. Alors, bien sûr, l'amertume, c'est négatif. Mais il faut savoir d'où ça vient, l'amertume. L'amertume prend sa racine, sa source, dans la tristesse. Donc, quand on emploie le terme en disant « ah, la sœur, elle est amère », faut... c'est pas le bon sens. Il faut comprendre que l'amertume prenant sa source dans la tristesse qui, elle, nous fait devenir amer. C'est pas la même chose. Et ici, Marthe était devenue... amer. Et elle dira au Seigneur, « Seigneur, si tu étais venu plus tôt, mon frère ne serait pas mort. » Et à Jésus, il n'a rien dit. Il a entendu. Est-ce qu'on réagit comme ça ? Frère, j'ai à vous parler. Oui, ma sœur, dites-moi. Si vous étiez venu plus tôt, ma situation ne se serait pas aggravée comme ça. Oh, la sœur, du calme, hein ? C'est qui le pasteur ? Oh, suivons l'exemple de Jésus. Et veillons à ce que ce ne soit pas notre chair qui prenne le dessus. Un jour, j'avais une brave sœur. Elle était assise sur la gauche. Et puis, j'étais parti dans mon... Puis, à un moment donné, la sœur me regarde, puis elle me fait... Alors, pourquoi tu tousses, tonton ? Alors, j'ai rien dit, mais j'ai compris. Vous savez que le Seigneur parfois se sert de frères et de sœurs. Le fer aiguise le fer. Un frère, une sœur, parfois, ça coince. Ben merci Seigneur pour la sœur qui m'a dit, enfin qui ne m'a pas dit, mais qui a fait le geste. Ça a parlé à mon cœur, pas sur le coup, plutôt après. C'est un peu comme le pot-au-feu, le lendemain c'est meilleur. Mais voyez-vous, cette femme va être dans la tristesse parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi Jésus n'était pas venu plus tôt. Nous avons vu la raison et c'est facile pour nous de lire cette histoire parce qu'on sait que Lazare va ressusciter. Mais il faut éviter de penser que Lazare va ressusciter en amont. Voilà, il faut l'oublier. Ça rend les choses plus difficiles à comprendre. Et ça nous met au niveau de Marthe. Et de Marie pour dire, moi aussi ça m'arrive de ne pas comprendre les choses. Alors la question que j'aimerais vous poser, est-ce que avant vous étiez actif ? Alors je tiens à vous avertir que le frère, votre pasteur, a fait comme moi je fais. Je n'avertis jamais les pasteurs en disant, frère, ça serait bien de prêcher sur tel sujet, parce qu'il y a un frère et une sœur. Il ne m'a rien dit, c'est pas vrai ? Voilà. Donc si ça vous touche... Dites merci au Seigneur. Et j'espère que ça vous touchera. Mais mes frères et sœurs, voyez-vous, parfois on a pu être dans l'activité. Alors pas forcément passer le balai, pas forcément faire les travaux, mais dans notre relation avec Dieu, dans la prière, dans se tenir dans sa chambre, Seigneur. Puis depuis un certain temps, parce que vous vivez des situations un peu particulières, ça vous semble tellement difficile. Que maintenant c'est l'amertume qui prend le dessus. Mais voyez-vous, mes frères et sœurs, vous avez le droit d'être amer, contrairement à ce que vous pourriez penser. Parce qu'on a tous le droit d'être triste à un moment ou un autre dans notre vie, parce qu'on ne comprend pas certaines choses. Mais c'est là où il ne faut pas tomber dans le piège. Le diable fera en sorte de vous rendre de plus en plus amer pour que vous deveniez rebelle Or, être dans l'amertume, c'est normal. Ça fait partie des sentiments, entre autres des sentiments que nous avons dans notre existence, dans l'être humain. Mais veillons sur notre cœur pour ne pas rester amer. Et Marthe a refusé de rester dans l'amertume. Elle dira, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Verset 21. Mais, ah le mais, il est tellement important. Maintenant, même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera, etc., etc. Mais maintenant, en d'autres termes, je refuse de rester dans cet état. Je me refuse de rester, eh bien, cloisonné dans cette amertume, dans le bougonnement, dans le fait de dire « j'en ai assez, je ne lis plus la Bible, je ne prie plus, je n'ai plus à l'église, allez, je boude à tout le monde. » Et vous trouverez toujours un tas de raisons. « Ah, si on m'aimait, la sœur un tel, le frère un tel me téléphonerait, ceci, cela. » Et l'adversaire sera toujours là. Il ne faut pas voir le diable partout. Ça, c'est une erreur. Mais il ne faut pas lui tendre non plus le côté pour vous taper dessus. Autre situation. Marie. Marie signifie exalter. Oui, exalter. Alors chez nous, on dit, oh, pop, 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 le frère. Pas trop dans l'exaltation. La sœur, oh la sœur. Non, non. On peut exalter d'une manière tout à fait digne. On fait monter notre louange vers le Seigneur. Je te loue, je te bénis. Il n'y a pas besoin de faire de sauter comme ça et de sortir les foulards et puis je ne sais quoi encore. Non. Dans l'exaltation, on est là. On est à l'écoute du Seigneur. Et c'est ce qu'était Marie. Elle était au pied de Jésus, elle écoutait. Mais Marie a une autre signification aussi. Devinez. Vous ne savez pas? Amère. Elle aussi. Marthe, c'est qui devient amère? Et Marie, c'est amère. C'est étrange, non? Deux sœurs. Étrange, oui et non, en réalité. La même fratrie. Les deux sœurs vivent la même chose. Encore une fois, avec leur sensibilité différente. Nous allons le voir rapidement. Mais ces deux sœurs étaient dans l'amertume, rappelons-nous, dans la tristesse. Et Marie et Marthe diront exactement les mêmes choses à Jésus. « Seigneur, si t'es venu plus tôt, mon frère ne serait pas mort. » Et boum! Une deuxième fois. Et Jésus ne réplique pas en disant « Eh, qui c'est le chef ?» Non? Il entend, il accepte. Vous savez que parfois, selon nos tempéraments, on est un peu sanguin, pas sanguin, mais... Ou alors on est tranquille, on regarde pas le feu, frère. Oh. Mais Dieu sait faire décrypter eh bien, nos façons d'être. J'aime beaucoup l'histoire de Job. Le pauvre vieux, il n'en pouvait plus. Et sa femme non plus. Écoute, Job, on va vite régler le problème. Tu maudis Dieu et puis tu meurs. Comme ça, on n'en parle plus, parce que moi, j'en peux plus de cette vie. Hein. Heureusement que le Seigneur n'entend pas toutes nos prières. Enfin, ce n'est pas qu'il n'entend pas. Il ne répond pas à toutes nos prières. Ce que j'aime dans Job, c'est que lorsque Job a tout perdu, même ses enfants et même la santé, à la fin de sa vie, Dieu lui a rendu tout au double. Il lui a même donné d'autres enfants, pas à la place de ceux qu'il avait perdu, parce qu'on ne remplace jamais un enfant qu'on a perdu. Jamais. Mais il lui a donné d'autres enfants. Et lorsque l'on lit ce passage, jamais on ne voit Job se remarier. Il n'est pas question de divorce ou de veuvage. À votre avis, il les a eus avec qui? Avec Madame Job. Et Dieu avait mis la cerise sur le gâteau. Les trois filles de Job, c'était les plus belles eh bien, du secteur. Lorsque les garçons ont regardé les filles, c'est qui? Qui c'est? Pas un peu ces filles-là, c'est qui ces filles à Job? Voilà. Ici, je reviens à mon texte. Marie était une femme qui était exaltée, Une femme qui aimait le Seigneur, qui s'est donnée au Seigneur, et pourtant, elle aussi est vécue, est en train de vivre un moment difficile. Ce qui va faire, ce qui va provoquer chez elle, eh bien, de l'amertume, une profonde tristesse. Et cette femme va réagir, va dire exactement les mêmes mots, à la virgule près, comme Marthe. Mais elles ne vivront pas du tout la situation de la même manière. Puisque il est écrit au verset 20, « Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla devant lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. » La maison peut être symbolisée par le fait de se replier sur soi-même. On ferme les volets, on ne répond pas au téléphone, on ne veut voir personne. Fichez-moi la paix! Je veux parler à personne, je veux être tranquille. Tu fais une dépression? Eh bien, fichez-moi la paix. Je la fais, eh bien, laissez-moi tranquille. Je veux la faire tout seul, en paix. Sœur, t'es dans l'amertume. Tu vois la porte là-bas? Prends-la tout de suite parce que... Oui, je suis amère. Et alors? Et en plus, cette femme était assise. Qu'est-ce qu'elle avait comme espoir? Elle avait fait venir Jésus, mais Jésus n'est pas venu. On le sait bien, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Sauf que là, il n'y en avait plus. Lazare, mort. Assise. Symboliquement, ça veut dire j'attends plus rien. Je vis non plus dans l'espérance, mais dans la désespérance. Pourquoi Dieu a-t-il permis telle chose dans ma vie ? Moi qui avant louais, bénissais, glorifiais le Seigneur, voilà, paf, patatras. Voilà que je suis en train de vivre quelque chose que je n'avais pas du tout compris, que je n'avais pas prévu, que je ne comprends pas et que je ne maîtrise absolument pas. Et je subis. Pourquoi ? Pourquoi, Seigneur ? Mais lorsque cette femme, qui était amère, va apprendre que Jésus l'attendait, elle aussi a refusé de rester, de demeurer dans l'amertume. Elle s'est levée, elle est allée voir Jésus. Mon frère, ma sœur, vous êtes peut-être cette Marthe, vous êtes peut-être cette Marie. Vous étiez peut-être une dame, façon de parler symboliquement, quelqu'un de très actif, quelqu'un qui prenait les choses en main. Et vous êtes devenue amère à cause de votre situation, que vous ne comprenez pas. Et Dieu ne vous a pas donné d'explication. Et Dieu n'est pas tenu de vous donner une explication. Peut-être que vous êtes cette Marie, vous étiez peut-être fidèle, réunion de prière, tout ça, même si Dieu ne répondait pas, vous étiez là, Seigneur, je sais ! Et puis, vous-même, vous passez par cette situation. Et vous êtes dans la douleur. Vous dites, Seigneur, pourquoi ? À un tel point que maintenant, à ce jour, vous ne priez même plus. Or, vous venez à l'église parce que vous avez tellement peur que le pasteur vous dise « Sœur, frère, je ne vous ai pas vu » et vous n'avez pas envie de parler, vous n'avez pas envie de donner d'explication. Et le frère le fera juste pour parce qu'il prend soin de son troupeau. Mais comme vous voulez éviter tout sujet de conversation concernant votre amertume, or ne refusez pas, ou plutôt refusez de rester dans cette amertume. Encore une fois, vous avez le droit d'être triste. Mais refusez, ne vous laissez pas bétonner par l'adversaire qui cherche une chose, à vous conduire à la disqualification, à vous disqualifier. J'en ai déjà parlé, mais je le redis aujourd'hui. Souvent, je le dis dans mon témoignage. Alors qu'un jour, j'étais dans le fond du trou, et c'est pas peu dire. J'étais très très mal, je sais pas, il y a des périodes comme ça où on n'est pas bien. Sans explication. Et j'étais parti emmener mon garçon au sport, un de mes garçons au sport. Et voilà que c'était la première fois que je l'amenais et que je le déposais. Enfin, je l'avais déjà amené, mais au moins j'étais resté sur place. Et ce jour-là, il faisait beau. Et autour du terrain de sport, il y a des poteaux qui montent haut dans le ciel, des poteaux pour avoir l'éclairage. Et ce jour-là, le poteau était derrière moi. Suivez. Et le soleil était derrière le poteau. Ça va, vous me suivez? Et moi, j'étais le long de la clôture, comme ça. Et je pensais à tout et à rien. Mais enfin, j'étais vraiment dans le... Et à un moment donné, mon regard était interpellé par ce que je voyais sur le terrain de sport, sur le gazon. J'étais en train de voir l'ombre du poteau qui était derrière moi. Et au sommet de ce poteau, avec l'éclairage, ça faisait presque, ça faisait comme une croix. Et moi, je ne voyais pas mon ombre. Il me suffisait simplement de faire ça et je voyais mon ombre. Alors bien sûr, il n'y avait aucun calcul là-dedans, sinon ça aurait été, ça valait rien. Et Dieu m'avait donné rendez-vous sur ce terrain de sport. Alors là, je ne m'y attendais absolument pas. Voir comme, ce n'était pas une croix, ça faisait comme une forme de croix. Et moi, je voyais que ça. Et tout de suite, cette petite voix que nous connaissons tous quand nous avons donné notre cœur à Dieu. Tu es dans l'ombre de la croix. Ça m'a suffi. Ce n'était même pas la peine de faire venir Billy Graham, Nicky Cruz ou je ne sais qui. J'ai eu ma prédication pour moi. Et Dieu m'avait donné rendez-vous juste là. Vous imaginez quand même que Dieu eh bien, est celui qui nous donne des rendez-vous. Alors, des fois, on arrive, on dit « Ah tiens, je suis là ». On réalise même pas. Pourquoi venir là, là, juste à ce poteau, là, me tenir là, à cette clôture? J'aurais pu me tenir à un mètre à côté, 50 centimètres, j'aurais vu mon ombre. Ça ne m'aurait pas parlé. Là, juste là, dans l'ombre. Mon frère, ma sœur. T'es dans l'ombre de la croix, crois-le de tout ton cœur, même si tu ne comprends pas, même si tu ne saisis pas, même si tu ne vois rien venir, fais confiance à Dieu. Quelle que soit ta position, quel que soit ton moment difficile que tu vis, tu es en Christ, et rien qu'en Christ. Et ça, c'est important que vous puissiez, que nous puissions sans cesse le vivre et le saisir dans notre cœur, que ce soit comme enraciné au fond de notre cœur, comme une ancre dans le fond de l'océan. Non, Seigneur, je sais, même si le bateau il bouge, mon ancre est dans le fond et ça ne bouge pas parce que j'ai fondé ma vie en Christ. Je termine. Où l'avez-vous mis? En parlant du corps de Lazare. Bien sûr, Jésus savait où était Lazare. Mais où l'avez-vous mis? Symboliquement, où tu as mis ton amertume? Où a-t-elle pris naissance? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie qui a fait que tu en es là aujourd'hui? Toi, la dame, jadis, ou l'exalté, jadis, devenu amère, où l'as-tu mis? Viens et vois. Montre au Seigneur. Bien sûr, Dieu le sait, mais c'est important de le dire. Dites à Dieu, voilà ce que j'ai vécu. Voilà ce qui fait qu'aujourd'hui je suis dans cet état, qui me rend tellement malheureux, malheureuse, qui fait de moi, eh bien, cet esclave de l'amertume. Seigneur, c'est là, c'est à partir de là, tu le sais. Oui, je le sais, mais je voulais te l'entendre dire, pour pas que tu vives dans l'illusion, pour pas que tu mettes le coude sur le dossier. Parce que c'est important. Vous savez, c'est comme un alcoolique. Le gars, il sait qu'il est alcoolique. Il le sait. Mais tant qu'il ne l'avoue pas, il n'y a pas moyen de guérison. Ah, mais je ne suis pas un alcoolique. Six bouteilles par jour, pas plus. Ah, ça va, il n'y en a pas sept. Mais je ne suis pas un alcoolique, ça c'est sûr. Mais tu ne vois pas dans l'état que tu es. Ce n'est pas la peine de lui dire ça. Vous allez le replier sur lui-même. Mais priez pour lui. Dites à que cet homme vienne vers vous en disant « Je suis ça ». Et à partir de là, alors là, il y a un moyen, il y a un processus qui se fait dans le cœur pour que la personne puisse être affranchie, le reconnaître. Et puis, il est écrit « Ôtez la pierre », verset 39.
Il sent. Déjà,
Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on déplace la pierre? Ça sent la mort. Et si ce matin Dieu vous disait, ôte la pierre de ton cœur, roule cette pierre. Mais Seigneur, ça fait 20 ans que ça s'est passé cette affaire. Qu'est-ce que tu es en train de me réclamer? Tu es en train de demander d'enlever cette pierre dessus sur cette pierre. J'y ai construit des choses dans ma vie. Et tu es en train de me demander ce matin d'enlever la pierre. Mais Seigneur, là, un tas de souvenirs vont faire surface et ça va sentir mauvais. Ça sent la mort. Ça pue. Ce matin, vous êtes libre de faire rouler la pierre que vous avez mise sur votre cœur, sur laquelle vous avez bâti votre vie. Dieu ne vous demande pas de tout détruire, bien sûr que non. Mais vous, vous le savez, ce qui se passe sous cette pierre. Et parfois, il y a des dates anniversaires qui reviennent. Ou il y a des endroits. Ah non, là-bas, c'est fini. J'irai plus là-bas dans cette ville. Oh là là, ça me rappelle trop de mauvais souvenirs. Ça s'appelle pas de la guérison. C'est pas de la guérison, ça. Si vous voulez être guéri, il faut demander à Jésus. Un jour, dans ma vie, dans mon cœur, j'ai vécu des choses lorsque j'étais enfant, ou plutôt j'ai vu et entendu des choses. Je ne pensais pas qu'à mon niveau, quand j'étais un petit enfant, eh bien que ça aurait eu autant d'impact. Mais lorsque je suis devenu adulte, ça a eu des effets sur ma vie. Ça me monte, ça, c'est pas que ça me monte à la tête, c'est que ça réagissait même sur mon tempérament, sur mon caractère. Et un jour, j'en ai eu marre. Est-ce que vous en êtes là? C'est peut-être parce que vous n'en avez pas encore marre. Priez le Seigneur pour que vous puissiez dire, Seigneur, j'en ai marre de chez marre. Vous savez ce qui s'est passé alors que j'ai demandé au Seigneur en quelques mots, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, ça, je ne veux plus ça. Je crois que c'est après juste la prière, j'ouvre la parole et je tombe. Mais alors, moi j'aime bien le hasard. Hein. Jérémie 30, verset 17. Mais je te guérirai, je panserai tes plaies. Dit l'Éternel. Car il t'appelle à repousser cette Sion dont nul ne prend souci. Moi, ce qui m'interpellait surtout, c'était « Mais je te guérirai, je panserai tes plaies. » Et c'était signé, dit l'Éternel. Alors là, je vais vous dire, c'était le ciel dans la cuisine. Oh, Seigneur, tu étais là, même dans la cuisine. Oh. Dans la cuisine, tu as parlé à mon cœur. Et si ce matin, vous acceptiez de dire, Seigneur, je veux enlever cette pierre pour que tu puisses me guérir. Et la fin de tout ça est simple, puisque parfois nous pouvons avoir quelques doutes en disant, mais Seigneur, le Seigneur rappelle en disant, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, c'est la condition, tu verras la gloire de Dieu. Alors peut-être que pour vous c'est une montagne, mais laissez Dieu faire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors il y a quelque chose qui peut surprendre. C'est midi, ça se termine à midi d'habitude. 5 minutes, c'est bon? Après 5 minutes, vous pourrez penser à votre gigot. 11:44. Et le mort sortit. Lazare sort. Le gars, il sort, ça a marché. Mais oui, ce que Dieu nous demande, c'est simplement de croire. Si tu crois, le reste, c'est lui qui le fait. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est tout ce que Dieu nous demande. Et le gars, il sort. Tiens, c'est marqué derrière. Il sort. Alors, j'aime bien l'imaginer avec les... C'était avec des bandelettes. J'imagine comme ça, avec les bandelettes qui traînent. Alors là, il y a quelque chose que, je ne sais pas comment vous imaginez la situation, mais il est écrit, et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Non mais, Seigneur, c'est bon, il n'est plus mort, il est ressuscité. Oh Lazare, tu te bouges un peu là, oh, ça y est, t'es vivant. Alors, vous savez à quoi il me fait penser ce Lazare? À tous ceux et à toutes celles qui rentrent dans les églises et même à vous peut-être, qui avez besoin que l'on prie pour vous. Lazare, il était mort. Il est vivant. Mais les bandelettes, on ne mettait pas des bandelettes aux vivants. Et les bandelettes qui traînaient par terre, rappelaient d'où ils venaient. J'étais un mort. Et parfois, nous laissons des choses sur notre vie, dans notre vie, qui nous rappellent notre passé. C'est ça qui nous empêche d'avancer. C'est ça qui nous empêche parfois, pour certains peut-être, d'être baptisés dans le baptême du Saint-Esprit. Il n'y a pas de raison que vous ne le soyez pas. Ce n'est pas normal que des chrétiens qui ont 20 ans de conversion sont toujours en train de... Oh là là. Oh, tu te bouges. Tu dis, Seigneur, j'accepte que tu viennes me guérir. Et vous allez voir, Dieu va faire les choses. Mais il faut que vous puissiez donner le feu vert à Dieu. Et il y a des gens qui ont besoin qu'on prie pour eux. Parce que ces bandelettes les empêchent d'avancer. Ces bandelettes les empêchent de vivre pleinement leur foi en Christ. Et Lazare signifie « Dieu est mon secours ». Alors ce matin, vous êtes peut-être un mort. Un mort vivant, c'est horrible. Ça n'existe pas, bien sûr. Mais symboliquement, vous êtes un mort. Vous êtes peut-être un Lazare. Mort. Marthe. Anciennement, dame, quelque chose qui... Oh, quelqu'un qui prenait les choses en main. Vous êtes devenu amer. Ou mari. Quelqu'un d'exalté, dans le bon sens du terme. Seigneur, je te loue, je t'adore. Et vous êtes devenu... Vous êtes amer. Si ce matin vous acceptiez que Jésus agisse dans votre vie, mais vous avez votre part à faire, refusez, comme Marthe et Marie, de rester dans l'amertume, parce que le diable vous attend au coin de la rue, et il vous mettra toujours un tas de choses, un peu de levure, du levain, pour dire, t'as vu, ah, c'est vrai, quelque part, j'ai raison. Et c'est comme ça qu'il y en a qui partent de l'église. Moi, je suis devenu un athée. T'es devenu athée? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Voilà. Mes frères et sœurs, on va prier si vous voulez bien.